Bonjour à chacun, à chacune. Alors, j'espère que vous n'êtes pas pressés. Hein, on a le temps. On est bien dans la présence de Dieu. Amen. Voilà, ce matin, je voudrais faire une lecture. On va lire dans le livre du prophète Osée. Osée, chapitre 2, et à partir du verset 16, on va faire une courte lecture. Osée, chapitre 2, verset 16, il nous est dit « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Amen. Amen. » On connaît ce texte et dans ce texte, Dieu parle au peuple d'Israël et on pourrait le dire peut-être d'une autre façon, Dieu parle à son peuple. Dieu parle à son peuple, ce peuple qu'il aime, ce peuple qui chérit, ce peuple qui prend soin, ce peuple pour qui Dieu a tant fait. Voilà, on se souvient de ce passage où le peuple était esclave pendant plus de 400 ans dans le désert en Égypte. Enfin, 400 ans d'esclavage en Égypte. Et Dieu va le délivrer de cet esclavage. Et on se souvient de cela. Et Dieu aime son peuple. Et Dieu parle à son peuple ici au travers de la bouche du prophète Osée. Et Dieu a un souhait en parlant ainsi. Dieu désire faire quelque chose pour son peuple. C'est de le conduire dans le désert dans un but bien précis. Et on va regarder ensemble quel est ce but. Ce but, c'est, on l'a lu, c'est de parler à son cœur. Et ce matin, j'aimerais parler du désert. Et j'aimerais plutôt parler de la nécessité de passer par le désert. Parce que nous avons besoin, et on va voir, de passer par le désert. Qui aime le désert? Personne ne lève la main. Généralement, et c'est vrai, c'est quelque chose que l'on n'aime pas. C'est quelque chose qui peut nous faire peur parce que le désert, peut-être on aime le regarder en photo, on aime le regarder lorsqu'il y a des documentaires et autres, mais on n'aime pas passer par le désert de manière physique. Pourquoi ? Parce que le désert, peut-être, c'est le lieu où il y a cette chaleur qui est intense. C'est, le désert signifie aussi le manque d'eau, très peu d'ombre pour se couvrir. C'est le lieu où il fait chaud, où on avance avec beaucoup de difficultés. On a même du mal à avancer. Ce n'est pas quelque chose que l'on aime. Et lorsque l'on regarde même dans les Écritures, dans la parole de Dieu, les déserts sont souvent reliés à l'épreuve. Ils sont souvent reliés à l'épreuve et même nous, dans notre façon de parler, lorsque l'on passe par des temps durs, lorsque l'on passe par des temps difficiles, par des temps là où c'est un peu compliqué, on a cette phrase qui sort de notre bouche et on dit « mais en ce moment-là, je passe par le désert, je suis dans le désert ». Et on résume très souvent l'épreuve par laquelle on passe par cette image que la Bible donne que par le désert. Et parfois, on s'imagine que le désert, c'est le moment de l'épreuve. On s'imagine que le désert, c'est le temps difficile, que c'est le temps dur. C'est le moment où on est éprouvé par la chaleur d'un désert physique, par tout ce qu'il y a dans ce désert, mais aussi c'est le moment où il y a ce manque de ressources que l'on peut trouver dans le désert. On qualifie souvent le désert de cette manière. Mais je note dans la Bible que le désert, parfois, a un autre sens que le sens de l'épreuve. Il n'a pas toujours le sens du moment où l'on est éprouvé, le sens du moment où c'est dur. Et lorsque Dieu dit à son peuple, par la bouche du prophète Osée ici, « Je veux l'amener dans le désert », il n'est pas en train de dire « Je veux amener mon peuple dans le désert dans le but d'être confronté à des problèmes. Je ne veux pas amener mon peuple dans des difficultés. » Dieu n'est pas en train de dire « Je vais éprouver mon peuple et je vais le presser là dans le désert et il va m'entendre. » Dieu n'est pas en train de dire cela quand il dit « Je veux l'amener dans le désert ». Dieu, et lorsqu'on regarde le livre du prophète Osée, Dieu, quand il s'adresse à son peuple, Dieu parle toujours avec un langage d'amour. Dieu parle toujours comme l'époux qui prend soin de l'épouse, comme l'époux qui va chérir l'épouse. Dieu aime son peuple. Et lorsque Dieu dit « je veux l'amener dans le désert », il veut l'amener dans ce lieu, dans un but précis. C'est de parler à son cœur. Et on va regarder ce matin quelques points concernant le désert. Et mon premier point est de dire que, et on l'a lu, c'est que le désert est un lieu où Dieu parle. Le désert, c'est un lieu de révélation. Quand on regarde l'Ancien Testament, on va parcourir un peu les Écritures ce matin pour comprendre cette notion de désert. Lorsqu'on parle de désert et qu'on identifie le désert avec le peuple hébreu, très souvent, on a cette image qui vient directement que c'est ces 40 années dans le désert, ces 40 années de difficultés, ces 40 années d'épreuves, ces 40 années où le peuple a été dans le désert, a erré dans le désert. Et oui, on peut très bien résumer le désert de cette manière. Mais il faut aussi regarder ce qui s'est passé dans ce désert. Parce que ce temps de désert n'a pas été qu'un temps d'épreuves, n'a pas été qu'un temps douloureux. Le désert, c'est le lieu où Dieu se révèle à son peuple. Et lorsque l'on regarde l'histoire du peuple hébreu en Égypte, ce peuple avait une notion de qui était Dieu. C'était un Dieu qui, pour eux, était lointain. C'était un Dieu qui existait, qui semblait prendre soin et qui avait choisi la nation d'Israël, qui avait béni Abraham, Isaac et Jacob. Ils avaient cette notion d'un Dieu que l'on ne peut pas côtoyer, d'un Dieu qui est loin, trop loin, d'un Dieu qui est saint. Mais je dirais que c'est dans le désert que le peuple va découvrir quelque chose de particulier concernant Dieu. C'est dans le désert que Dieu va se révéler comme étant présent. Dieu n'est pas loin, mais il est présent dans la nuée. Dieu n'est pas un Dieu loin qui oublie son peuple, parce que dans le désert, Dieu va pourvoir à son peuple, aux besoins de son peuple. Il est celui qui va donner la manne, il est celui qui va donner la caille, qui va pourvoir à de l'eau. Dieu n'est pas un Dieu loin. Dieu est un Dieu qui est présent au milieu de son peuple. Dieu réside sur l'arche de l'Alliance, sur cette tente, le tabernacle. Dieu est présent. Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu est un Dieu qui, le jour du grand pardon, du Yom Kippour, comme on l'appelle, il est là et il pardonne le péché. Le jour de la Pâque, l'agneau est immolé afin que l'on soit délivré. Et Dieu est un Dieu qui entend. Dieu est un Dieu qui parle. Et on a ce passage où Dieu va donner les commandements, ces commandements à son peuple au travers de Moïse. Et cela est la preuve que Dieu, dans le désert, a parlé et qu'il a parlé à Moïse. Dieu semble être beaucoup plus proche et ce peuple va expérimenter cela dans le désert. Il va l'expérimenter. Et le temps de désert pour le peuple d'Israël ne peut pas seulement se caractériser par le temps de l'épreuve. On va regarder, j'ai pris trois exemples, mais on pourra en prendre bien plus au travers de Moïse et dire que Moïse n'est pas en Égypte qu'il va découvrir le plan de Dieu pour sa vie. Ce n'est pas en Égypte que Moïse va découvrir qui est Dieu. Ce n'est pas en Égypte qu'il va découvrir la personne de Dieu, qu'il va découvrir cette relation et créer cette relation avec Dieu. Il a fallu que Moïse passe par le désert. Il a fallu que Moïse passe par ses 40 années dans le désert de Madian. Il a fallu que Moïse apprenne le métier de berger. Il a fallu que Moïse soit loin de tous ses repères, loin de ses frères, loin de ce pays d'Égypte dans lequel il a grandi pour être seul. Mais c'est dans cette solitude, c'est dans ce lieu de désert que Moïse va vivre et que Moïse va apprendre quelque chose d'incroyable concernant Dieu et que Dieu va se révéler à lui. C'est aussi pendant ces 40 années dans le désert que Moïse va
affiner son oreille pour entendre la voix de Dieu dans le buisson ardent et répondre à l'appel que Dieu avait placé sur sa vie. C'est dans le désert que Moïse va entendre tout cela. Ce n'est pas en Égypte. Et le temps de formation est un temps, et dans le temps de désert, pardon, est un temps de formation pour Moïse, mais c'est un temps de révélation et c'est un temps aussi où il va répondre à l'appel que Dieu lui avait mis sur sa vie. On peut penser aussi au prophète Élie. Et parfois, on résume sa fuite dans le désert et on a vu dans le désert finalement le fait qu'il il est accablé, il est chargé, il est face à toutes ces difficultés. Mais qu'est-ce que fait le serviteur qui est éprouvé? Qu'est-ce que fait le serviteur qui passe des temps difficiles? La Bible nous dit que Élie va chercher le désert. 1 roi 19, verset 4, « Pour lui, Élie alla dans le désert. » Personne n'a poussé Élie à y aller. Personne n'a dit à Élie, « Tu vas dans le désert. » Mais c'est Élie qui y allait par lui-même. C'est Élie qui décide de prendre la direction du désert. Pourquoi ? Parce qu'il avait une idée en tête. Dans ce lieu de désert et de solitude, Élie va faire cette rencontre avec l'Éternel. Et ce temps de désert va être un temps de révélation pour le prophète. Parce que c'est dans le désert qu'Élie va voir ce qu'il n'a jamais vu jusqu'à maintenant. C'est dans le désert qu'Élie va, alors qu'il est caché au creux du rocher, qu'il va voir la gloire de Dieu passer, la gloire de l'Éternel passer ici. Il va se cacher dans le creux du rocher et il avait vu le feu descendre du ciel. Il avait entendu le grondement, il avait su dans l'histoire d'Israël que c'était de cette manière que le Seigneur parlait, que c'était de cette manière que le Seigneur se révélait, mais il n'avait jamais entendu que le Seigneur pouvait se révéler aussi par un doux murmure au creux du rocher. Et c'est dans ce moment-là, dans le moment de désert dans sa vie dans laquelle il passe, qu'Élie va apprendre ces choses. C'est dans ce temps-là. Un autre exemple, si on ouvre le Nouveau Testament, et qu'on regarde cette même notion de désert est présente. Et j'ai pris ce passage, c'est dans le désert que Jean-Baptiste va faire la rencontre de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je réfléchissais à ça et je me disais, mais c'est quand même assez fort puisque Jésus et Jean-Baptiste sont de la même famille. Jésus et Jean-Baptiste ont un lien de parenté, ils se connaissaient. Et ce n'est pas possible de dire qu'avant que Jésus arrive dans le désert où prêche Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste n'avait jamais entendu ou qu'il n'avait jamais su ou qu'il n'était pas conscient que Jésus existait. Ils étaient, je le redis, mais ils étaient membres de la même famille. Ils avaient un lien de parenté. Mais la Bible nous dit que c'est ce jour-là dans le désert, alors que Jean-Baptiste prêche l'Évangile, alors que Jean-Baptiste annonce le royaume de Dieu qui dit de se repentir, Jésus va s'approcher de lui et il va y avoir une révélation de Jésus qui est toute particulière dans le cœur de Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il y a eu cette révélation dans le désert. Et Jean-Baptiste a appris tout cela dans le désert. Le désert, comme je disais, on pourrait le définir comme un lieu d'épreuve, parce que la sécheresse est là, parce qu'il fait chaud, parce qu'on ne tient pas. Le désert pourrait se définir par un temps où on passe par des difficultés. Et je note que le désert, c'est un lieu où nous sommes seuls. C'est un lieu où nous sommes loin de tous les bruits. C'est un lieu où nous sommes loin de toutes les occupations qui sont là et qui peuvent prendre une place importante dans notre vie. Le désert, c'est un lieu où nous sommes loin et coupés, retirés de tout. C'est ce lieu où il n'y a plus personne. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu, quand il parle au prophète Osée, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire à son peuple, « Je veux l'amener dans ce lieu où il n'y a plus de bruit, dans ce lieu à l'écart. » Et c'est dans ce temps où il y aura que toi et moi que je pourrai parler à ton cœur. C'est dans ce temps, je ne peux pas le faire avant parce que ta préoccupation n'est pas centrée sur moi. Je ne peux pas le faire avant parce qu'il y a du bruit, parce que tu es chargé. Et c'est pourquoi je veux t'amener dans ce lieu de solitude pour parler et pour te révéler qui je suis vraiment. Et le Seigneur va lui dire, je ne suis pas seulement un maître, mais il va lui dire, je suis ton mari. Je suis ton mari. Et c'est dans ce lieu de retraite spirituelle que l'on est coupé de toutes les occupations, que l'on peut se concentrer sur la présence du Seigneur et découvrir qui il est réellement. Et pas seulement ce qu'il fait pour nous. Pas ce qu'il fait seulement. Et mon frère, ma sœur, existe-t-il encore, je dirais, dans nos vies et dans ta vie, un lieu qui pourrait correspondre à ce désert? Un lieu où il n'y a plus de bruit. Un lieu où il n'y a que toi et le Seigneur. Est-ce qu'il existe encore ce temps? Existe-t-il encore ce lieu où le Seigneur veut te mettre à l'écart pour parler à ton cœur? Existe-t-il encore ce lieu? Parfois, on constate qu'il y a une distance qui se crée entre le Seigneur et son peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a ce manque de désert dans nos vies. Il y a ce manque de désert. Et cette révélation, finalement, de Dieu est parfois pas réellement présente dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi je dis cela? C'est qu'il y a, je vais le dire de manière générale, peut-être beaucoup de chrétiens qui vivent soumis à un maître qui s'appelle le Seigneur Dieu. Que l'on vient peut-être servir le dimanche matin, que l'on vient servir uniquement dans des réunions en semaine. Il y a que l'on vient servir, mais il n'y a pas vraiment cette relation qui est là. On vient servir un maître, mais non pas un mari. Il n'y a pas cette relation qui est là. Certains qui reconnaissent Dieu comme étant celui qui règne, comme celui qui dirige, comme celui qui est l'autorité, mais ils n'ont pas rencontré le Seigneur, comme le dit ici dans le livre du prophète Osée, qu'ils n'ont pas rencontré le mari, celui qui aime, celui qui prend soin, celui qui chérit, celui qui s'approche de nous avec un cœur plein d'affection. On a, et pour la simple raison, c'est que lorsque, pour apprendre cela, pour apprendre et voir qui est réellement Dieu, qui est vraiment le Seigneur dans nos vies, il faut que nous passions par ces temps de désert. Nous avons besoin de cela. C'est dans le temps de solitude que l'on apprend que le Seigneur n'est pas seulement celui qui est l'autorité, il n'est pas seulement celui qui règne. Qu'on n'apprend pas seulement qu'il est celui qui a tout pouvoir, mais c'est dans ce désert qu'on apprend qu'il est celui qui nous aime et qu'il est celui qui veut prendre soin de nous. C'est dans ces moments-là que nous allons découvrir qui il est réellement. C'est dans ces temps de désert. Et c'est dans le désert qu'il y aura un changement de connaissance de qui est Dieu. Et c'est dans le désert qu'il va y avoir cette révélation. Et peut-être que quelqu'un, ce matin, a besoin de prendre cette décision ou de reprendre cette démarche, cette prise de conscience et de te dire que j'ai besoin de retrouver ce temps seul avec Dieu. J'ai besoin de retrouver un temps, ce lieu de désert où le Seigneur va me parler. Un temps où tu peux te tenir dans le secret devant le Seigneur pour entendre, enfin, être coupé du bruit, être coupé de toute occupation, pour entendre le Seigneur te parler. J'aurais peut-être même pu commencer par en parlant de Jésus, mais on va le faire maintenant. Lorsque nous parcourons les évangiles, il est souvent fait mention que Jésus allait au désert. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il est souvent fait mention de cela. Jésus fait des miracles, la Bible nous dit qu'il se réfugie au désert. Jésus délivre un possédé, qu'est-ce qu'il fait? Il se réfugie au désert. Jésus fait une multiplication des pains et des poissons, il va nourrir des milliers de personnes, il s'enfuit au désert. Et Jésus avait pris cette habitude d'avoir un temps seul, un temps coupé des disciples, un temps coupé des gens pour être seul avec le Père. Mais surtout, Jésus avait le besoin de se retrouver seul à seul avec son Père. Il avait besoin. Et si Jésus nous a montré le modèle, à plus forte raison, nous aussi, nous avons besoin de suivre ce modèle pour aller plus loin dans nos vies. Le désert est un lieu de rendez-vous. Le désert est un lieu où, je le redis, mais le Seigneur veut nous parler. Et c'est dans ce temps de désert que tu vas pouvoir apprendre à mieux connaître le Seigneur et que c'est dans ces temps que le Seigneur pourra te parler. On le relit ce verset, mais c'est pourquoi voici... Je veux l'attirer et la conduire au désert. et je parlerai à son cœur. Le désert n'est pas forcément un lieu d'épreuve. Il est ce lieu où le Seigneur veut nous parler. Le désert est un lieu de révélation, un lieu où Dieu parle. Non seulement ce temps de désert sont des temps de révélation, des temps où le Seigneur nous parle, mais il y a aussi une promesse de bénédiction attachée à ces temps de désert. Au peuple d'Israël, c'est ce qu'il va dire. Il va dire, mon souhait, c'est de vous amener dans un lieu de désert pour parler à votre cœur. Mais il ne va pas juste dire pour parler à votre cœur. Il va dire, mais c'est dans ce lieu-là que je veux donner des bénédictions. Et parfois, nous n'arrivons pas à avancer dans notre vie spirituelle. Parfois, nous n'arrivons pas à voir les choses se mettre en place dans notre vie parce que nous manquons de discipline à chercher ces temps de désert. Remarquez ce qui est noté au verset 17. Là, c'est dans le désert. Je lui donnerai ses vignes. C'est dans le désert que je lui donnerai ce dont ce peuple a besoin. Et Dieu est en train de dire ici que c'est dans ces temps où on est loin de tout, loin des distractions, où il n'y a pas plus de bruit, où il n'y a plus personne. C'est dans ces moments-là que je vais pouvoir te bénir. Et il va dire, c'est dans ces temps-là que je vais pouvoir leur redonner cette vigne. La vigne, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé de planter des vignes dans le désert, mais il n'y a rien qui pousse. La vigne, c'est l'image de la puissance, de la prospérité, de la fertilité, de la bénédiction de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de dire à son peuple, je vais t'amener dans ce temps parce que j'ai des bénédictions pour toi. Je veux t'amener dans ce temps de solitude, dans ce temps de silence où il y a juste toi et moi. Et c'est dans ce temps-là que je vais pouvoir te donner ce dont tu as besoin. C'est dans ce temps-là. C'est dans les temps d'intimité que le Seigneur nous donnera la victoire. C'est dans les temps d'intimité que nous prendrons et que nous passerons du temps à prier, que nous pourrons pourrons chercher sa face, que le Seigneur nous donnera la victoire sur la tentation qui est peut-être face à nous. C'est dans ces temps de désert que le Seigneur nous donnera la victoire sur la maladie. C'est dans ces temps de désert que le Seigneur nous donnera peut-être la victoire sur notre famille qui est déchirée, sur notre couple qui est déchiré. C'est là que le Seigneur nous donnera la victoire sur toutes les forteresses qui ont pu se construire autour de nous. C'est là où le Seigneur nous donnera la victoire alors que nous sommes dans ce temps seul avec Dieu. Dieu nous parlera, Dieu nous donnera une parole, mais il nous donnera aussi ce dont on a besoin. Il nous donnera ses vignes. La vigne, c'est, je le redis, c'est source de richesse. La vigne, c'est source de subsistance pour le peuple. Et je me suis rappelé de ce passage dans l'Ancien Testament lorsque les espions vont partir dans le pays de Canaan pour la première fois. La Bible nous dit qu'ils vont voir une grappe de raisin et que cette grappe était si grosse qu'il fallait être deux pour la porter. Et dans le symbolisme biblique, la grappe de raisin est le symbole de la richesse, le symbole de l'abondance, le symbole de la bénédiction de Dieu. La Bible nous dit que, et même c'est Jésus qui le dit lorsqu'il nous enseigne sur la prière, il nous dit « c'est là, dans le secret, que tu recevras ». C'est dans le secret que tu recevras cette bénédiction. La Bible nous montre que Jésus lui-même, dans son ministère, c'est aussi dans ces temps de désert avec le Père que tout s'est accompli. Il a pu accomplir le ministère dans lequel il était sur terre. C'est dans la prière qu'il a trouvé les forces pour aller jusqu'à la croix. C'est dans la prière qu'il a pu avoir la révélation des 12 disciples qui allaient l'accompagner durant ces 3 années de ministère, mais qui allaient aussi continuer la mission après qu'il soit parti. C'est dans la prière que Jésus s'est tenu pendant tout son ministère pour voir des choses puissantes se passer. Parce qu'il avait pris l'habitude d'aller dans ce temps de désert. Et j'aimerais que l'on puisse prendre conscience que l'on a besoin de vivre ces temps. On n'aime pas le désert lorsqu'il s'agit d'une épreuve. Et nous devrions entretenir pourtant ces temps afin que le Seigneur puisse agir. afin que le Seigneur puisse nous restaurer, afin que le Seigneur puisse se faire connaître à nous encore plus, mais nous permettre aussi de grandir dans cette révélation de qui il est. Le seul moyen de découvrir un cœur aimant, c'est de passer du temps avec lui. Le seul moyen de découvrir qui il est, que Dieu n'est pas seulement un maître, mais de découvrir Dieu comme un mari, c'est d'aller dans le désert et de passer du temps avec lui. Le seul moyen pour toi ce matin également, si tu veux découvrir la personne de Christ, si tu veux pouvoir jouir des richesses, de ces richesses, si tu veux pouvoir être vainqueur sur tout ce qui est actuellement vainqueur sur toi, c'est dans ces temps-là que tu pourras, c'est dans ces temps de désert que tu pourras voir la victoire. Si tu veux voir ta situation changer, si tu veux voir ta vie complètement être changée, il faut que tu passes par ce lieu où tu te retrouveras seul avec le Seigneur. C'est dans ces temps-là. Il y a aussi, s'il y a une bénédiction, s'il y a une promesse de vigne, une promesse de relation qui est restaurée, d'une relation qui s'agrandit, d'une relation qui augmente, lorsqu'on lit la suite de Osée chapitre 2, verset 17, il y a aussi une promesse de lieu qui est attachée. Il nous est dit, là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Alors on pourrait se dire, Seigneur, tu vas nous donner cette vallée d'Accor, mais qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela représente? Et pour comprendre à quoi cela correspond, il faut retourner dans le livre de Josué au chapitre 7. Je vais rappeler vraiment vite fait et pas rentrer dans les détails, mais premièrement, cette vallée correspond à un lieu de lapidation. Ce lieu correspond à la lapidation d'Acan. Vous rappelez, le peuple part en guerre contre Haï, le peuple Haï, et ils vont perdre le peuple. Pourquoi? Parce que Acan avait péché. Et à cause du péché d'un seul, à ce moment-là, le peuple va vivre un temps difficile. Il va y avoir des pertes humaines. Il va y avoir des temps douloureux. Acan va devoir payer à cause de sa faute. Il va être condamné à être lapidé. Et il va mourir par lapidation. Et le lieu qui va être choisi, c'est cette vallée d'Accor. Et depuis ce moment-là, cette vallée va être un lieu de malédiction, un lieu de désert. Mais c'est un lieu aussi finalement qui nous parle que nous avons été vaincus par la situation. Et alors que le peuple était un peuple conquérant, un peuple qui devait gagner dans cette guerre, cette vallée est comme un souvenir d'échec. Et dans le chapitre 15 de Josué, cette vallée va devenir même aussi une limite à ne pas franchir. Il est dit, Josué 15, verset 17, la limite pour Juda, la frontière de l'héritage, c'est cette vallée d'Accor. C'est cette vallée. Mais ce que Dieu est en train de dire dans le livre d'Osée, quand il, en parlant de cette vallée, c'est que cette vallée qui porte le souvenir de l'échec, c'est que cette vallée qui porte des traces de cicatrisation, c'est que quelque chose qui s'est mal passé de là où on a été vaincu, cette même vallée d'Accor va être changée en porte d'espérance. Cette même vallée va être changée en quelque chose de bon. Dieu va changer le mal en bien. Alors que le peuple vont être mis dans le désert, dans le temps de solitude, là où le Seigneur va se révéler, là où le Seigneur va parler à son cœur, ce qui avait été jusqu'à maintenant une vallée de désespoir va devenir une porte d'espérance. Dieu est en train de dire, je vais changer l'échec, je vais changer la souffrance en quelque chose de beau. Et ce matin, j'aimerais le dire que c'est aussi finalement dans ce temps de désert que le Seigneur promet que même dans notre plus grand désespoir, le désespoir qui peut être le plus profond, même dans notre tristesse qui peut être la plus lourde, même dans notre même si on passe par des temps où il y a une cicatrisation qui est là, même si on est dans notre propre vallée, d'accord, là où on a été vaincu, là où l'on se sent comme rien, alors que l'on va dans le désert, c'est dans ce temps que le Seigneur promet une nouvelle espérance. C'est dans ce temps-là. Et ce qui était cause de désespoir, ce qui était cause d'échec, ce qui était cause de tristesse, Dieu est en train de dire, mais je vais le changer en quelque chose de nouveau. Il va y avoir cette porte qui va s'ouvrir, une porte d'espérance. Le Seigneur promet au peuple d'Israël, et il nous le promet aussi dans sa parole, que si nous fixions ces temps, si nous prenons le temps de venir dans ces lieux de désert, il est celui qui changera nos vallées et nous donnera et nous ouvrira une porte d'espérance. Nous avons besoin de passer par ces temps. Nous avons besoin. Et je vais terminer en disant peut-être que quelqu'un ce matin a besoin de dire... Et peut-être de dire au Seigneur, j'ai abandonné ce désert. J'ai abandonné ce lieu et il n'y a plus cette intimité qui est là. Mais est-ce que tu veux ce matin, dans ta situation, dans l'épreuve peut-être par laquelle tu passes, est-ce que tu veux que le Seigneur te parle? Est-ce que tu veux que le Seigneur change ta situation? Que tu puisses exactement comprendre ce qu'il veut pour ta vie? Vous savez, si Jésus lui-même est allé au désert pour recevoir les paroles du Père, c'est parce qu'il ne pouvait pas les recevoir lorsqu'il y avait du bruit. Il ne pouvait pas les recevoir lorsqu'il était avec les disciples. Il ne pouvait pas les recevoir lorsqu'il était même avec la foule. Et peut-être que quelqu'un, ce matin, est dans un peu une croisée de chemin. Il y a des décisions à prendre. Il y a un choix qui est à faire et tu ne veux pas te tromper. Et je voudrais te dire qu'il est très important pour toi de revenir dans ce lieu et de demander au Seigneur de te parler, de revenir dans ce lieu de désert. Seigneur, il y a des choses que j'ai envie de saisir, mais je ne sais pas comment. Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas, des situations où je suis pris, tenu lié. Mais comme le dit le Seigneur à son peuple dans le livre d'Osée, viens au désert, viens dans ce lieu. Et là, dans le désert, je te parlerai. Là, dans ce désert, je te donnerai la bénédiction dont tu as besoin. Et là, dans ce désert, je changerai le mal en bien. Amen. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Parce que Seigneur, ta parole, elle est la vérité. Ta parole, c'est celle qui nous nourrit. Et c'est vrai, Seigneur, que tu nous rappelles que dans ces moments... Nous avons besoin, Seigneur, c'est vrai, dans nos vies, de passer par ces temps où on se retrouve seul avec toi, ces temps où on est coupé de toute distraction, de toute chose qui pourrait prendre la première place, pour venir, Seigneur, et entendre ce que tu veux encore nous dire. Merci encore de bénir chacun ce matin, de bénir peut-être un frère, une sœur qui a besoin peut-être de retrouver ce chemin du désert. Peut-être un frère, une sœur qui a besoin de se couper de toute occupation, qui prend la première place pour revenir à tes pieds et pour entendre ce que tu veux lui dire, pour recevoir cette bénédiction dont il ou elle a besoin et pour que tu puisses agir dans sa vie. Merci encore pour tout, Père. Amen.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Avant qu'on se sépare, juste quelques secondes là, sous le regard du Seigneur par rapport à tout ce que nous avons vécu, la parole que Guillaume nous a apportée, mais aussi dans les dons spirituels. Et je crois dans cette pensée où le Seigneur nous invitait à saisir, demander, et vous recevrez. Voilà. Et dire que c'est dans le désert que l'on reçoit, peut-être juste ajouter une pensée. Le désert, ça a été dit, hein, c'est pas de l'opulence, c'est pas, parfois même c'est synonyme de mort. Et aller volontairement au désert, ça veut dire j'accepte de me séparer de ce qui fait des richesses selon mes conceptions et selon les conceptions de ce monde pour m'intéresser aux richesses de Dieu. Et forcément, c'est spirituel. La Bible nous dit que nous avons été bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et aller dans le désert, Et le désert, ça peut être ce lieu secret dans ta chambre. Tu coupes tout. Et la seule richesse que tu recherches, c'est la recherche de ta vie spirituelle. Et la Bible nous dit quand même, elle est formelle. Et elle est la vérité. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement. Et dans ce désert, comme c'était très justement dit, on découvre le Dieu d'amour. Peut-être que le Seigneur t'attend là. Peut-être que pour quelqu'un, il y a un rendez-vous que tu as manqué à plusieurs reprises, où le Seigneur a voulu te parler. Et puis d'autres contrariétés, d'autres impératifs t'ont repris le dessus. Et tu as oublié peut-être même que ce temps d'intimité, de cœur à cœur, pouvait exister. Et je crois que ce matin, le Seigneur nous rattrape au bon. Il nous dit, allez, c'est maintenant, c'est moi qui t'amène là. Et je vais te parler. Je ne suis pas celui qui peut tout. Bien sûr, il est celui qui peut tout. Que tu viens me chercher uniquement quand il y a un problème, un besoin. Non, non, je veux qu'il y ait plus que ça. Afin que ton cœur soit désaltéré. Afin que ton cœur ait la vie là où il y a la mort, Jésus met la vie. Qu'il soit guéri, qu'il soit restauré. Voilà, laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Alléluia. On va prier ensemble. Mais vous comprenez bien que c'est pas là que tout se décide. Ici, c'est une étincelle. Le Seigneur agit, vous donne la ligne. Mais maintenant, c'est chaque jour où on passe un temps, des moments avec le Seigneur. Amen. Alors, vous savez ce qu'on va faire, comme on a entendu que le Seigneur parle dans un murmure doux et léger. Pendant quelques secondes, moi, je vais me taire, et vous aussi. Et on reste sous le regard du Seigneur et on parle au Seigneur. On ne se laisse pas distraire par aucune voix, par aucun bruit, mais on a un cœur à cœur avec Jésus. Quelques secondes. Encore quelques secondes et on va terminer ces moments. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole, pour tout ce moment de ce matin. Quelle grâce nous avons. Seigneur, de pouvoir te connaître, de pouvoir t'appeler notre Père et de savoir, Seigneur, que nous pouvons être dans cette intimité et qu'il peut exister, Seigneur, dans nos vies, des lieux secrets, un lieu secret où il n'y a que toi et nous et chacun d'entre nous pour sa part. Et que, Seigneur, tu aies une oreille attentive pour chacun. Seigneur, ce matin, c'est comme des fardeaux qui sont déposés. Seigneur, ce matin, c'est comme des cœurs qui se déchargent. Et qui peut-être disent, ça faisait tellement longtemps, Père, que je n'avais pas eu ces moments. Seigneur, ce matin, quelqu'un peut-être redécouvre. Que tu es là pour nous aimer, pour nous soutenir, pour nous encourager à marcher dans tes voies, Seigneur, c'est le péché, Seigneur, qui nous sépare de toi, mais tu as paru afin de détruire les œuvres du diable, pour nous laver, nous pardonner, pour que nous entrions dans cette intimité. Quelle joie, quelle grâce. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons parce que nous repartons avec la bénédiction de l'Éternel. Tu es celui qui nous bénit simplement parce que tu es avec nous, parce que tu es là. Et notre bénédiction, c'est ta présence dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, à toi toute la gloire, Jésus.